La première.
13h30, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes en 1830, au lendemain de l'indépendance de la Belgique. Immédiatement, l'école se retrouve au centre d'une lutte idéologique musclée qui oppose les deux courants qui fondent la société, à savoir les mondes chrétiens et laïcs. Et ce n'est pas tant d'ailleurs la liberté d'enseigner qui est remise en cause, elle fait rapidement consensus. Mais ce qui coince, ce sont les conditions de subvention de l'école libre et la place de l'école publique ainsi que l'organisation du cours de religion. Témoin de cette histoire, le patrimoine scolaire, les murs de nos écoles reflètent en effet notre guerre scolaire.
Un jour dans l'histoire.
13h30, 14h30 sur la première.
Bien, asseyez-vous.
Voilà, l'heure de la rentrée des classes a sonné. C'était le grand mot de Jean-Daniel Varag, extrait du film, de cette adaptation. Thierry Demey est avec nous. Bonjour Thierry Demey.
Bonjour Laurent.
Vous êtes l'auteur aujourd'hui de cet ouvrage qui s'appelle Bruxelles au tableau noir, le patrimoine des écoles, miroir de la guerre scolaire, qui paraît aux éditions Badaud. Alors, la liberté d'enseigner est inscrite dans la constitution belge depuis l'indépendance en 1830. Dans l'esprit des hommes politiques de l'époque, il s'agit de protéger les citoyens de l'intervention invasive de l'État. On le verra tout à l'heure. Et puis surtout de promouvoir l'enseignement pour tous, public, gratuit et laïque. Sous l'Ancien Régime, Thierry Demey, ça se passe comment ?
Sous l'Ancien Régime, c'est tout simple. L'Église est absolument toute puissante. Mm-hmm. C'est elle qui organise de la petite école à l'université. Elle organise tout. Elle a la main sur tout. Et ce qui va arriver et qui ne va pas être apprécié par la société belge, c'est que et les Français entre 1795 et 1815, et les Hollandais, de 1815 à 1830, vont dire « L'école est une chose bien trop sérieuse pour la laisser à l'organisation de l'Église. Nous allons donc la prendre en main et on va instaurer un enseignement libre, mmh, obligatoire, gratuit, bien entendu, et neutre sur le plan confessionnel, ce qui va soulever la société belge contre ses occupants.
Alors, avant l'intervention de l'État, sous l'Ancien Régime, déjà, certains sont soucieux quand même de venir en aide aux étudiants sans ressources, des nobles, des clercs fortunés qui fondent des hospitias. Qu'est-ce que c'est que ces hospitias ?
Ah oui, alors, ce sont en fait des sortes de cotes à l'ancienne, mm-hmm, c'est-à-dire ce sont des institutions où les étudiants qui n'ont pas les moyens sont à la fois logés, nourris, de manière à pouvoir suivre les cours à la faculté. On parlera d'ailleurs de boursa, c'est-à-dire les ancêtres des bourses actuelles. Pour les nobles et les grands bourgeois de l'époque, c'est une manière de se rendre utile socialement que d'aider des jeunes sans moyens, d'autant que l'enseignement à l'époque est extrêmement élitiste, c'est d'aider ces jeunes sans moyens à suivre des études malgré tout.
Ces hospitias, ce sont quoi, les ancêtres des premiers collèges ?
En quelque sorte, oui, puisque ça va déboucher sur la création de collèges d'humanité, les collèges d'humanité qui vont, dans la période de la contre-réforme, se développer considérablement. Et à Bruxelles, il y aura la grande rivalité entre le collège des Augustins et le collège des Jésuites. Plus de traces de ces deux collèges, sauf que le collège des Jésuites s'est déplacé à plusieurs reprises. Mais le collège des Augustins était place de Beaucaire. Mmh. On imagine, la rue des Augustins, elle existe toujours. Sur la place de Brouckère se trouvait l'église, d'ailleurs, des Augustins, qui a été détruite tardivement. Et le collège des Jésuites, à l'emplacement de la bibliothèque royale. Et aujourd'hui, c'est le collège Saint-Michel qui se trouve à Etterbeek.
Le collège Saint-Michel qui a une histoire très particulière.
Absolument, c'est une très très longue histoire, puisqu'elle commence à l'époque d'Albert et Isabelle, donc au XVIIe siècle, que les Jésuites vont se faire interdire pendant une période d'une cinquantaine d'années, parce qu'ils concentrent évidemment énormément de rancœur et de jalousie contre eux. C'est qu'ils sont très infiltrés dans les sphères du pouvoir, ils sont très influents, ils semblent diriger les âmes et pas rien que les âmes, et que donc, à un moment donné, on va pratiquement les exclure et dissoudre l'ordre qui va renaître de cette cendre de plus belle en 1830. En 1835, ils installent leur collège rue des Ursulines. C'est l'actuel collège Saint-Jean-Berckmans qui est donc le pendant néerlandophone du Collège Saint-Michel, qui n'est pas évidemment dans les bâtiments tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais le Collège Saint-Michel de l'époque va être obligé de déménager en raison de la création de la jonction ferroviaire entre les gares du Nord et du Midi.
Alors avant l'invasion, enfin avant la présence des Français, des Hollandais, vous lisez, qui vont remettre mettre la main sur l'organisation de l'enseignement, le rôle des petites écoles est déjà capital.
Le rôle des petites écoles est capital, mais l'enseignement y est relativement accessoire. En fait, il s'agit d'élever et d'éviter que les enfants traînent dans la rue. C'est un phénomène qui peut encore être aujourd'hui bien actuel. L'idée, c'est de leur apporter de la discipline, de l'obéissance, un sens moral et de leur apprendre la religion. Accessoirement, on leur apprend à compter, à lire, bien entendu, mais finalement, ce n'est pas la mission principale. C'est essentiellement une mission d'éducation qui leur est donnée dans les petites écoles qui vont se généraliser, mais très progressivement, aussi bien dans les paroisses que dans les chapitres de cathédrales, etc.
Et on va voir avec vous, Thierry Demey, que l'air que respirent les Belges à l'époque sera longtemps empoisonné par la question scolaire.
Absolument.
Allez, plus vite. Et en silence.
J'ai rien dit.
En silence.
Si j'ai ordonné ce rassemblement, c'est parce que le père Maxence vient d'être victime d'un lâche attentat. Selon notre principe action-réaction, son auteur sera sévèrement puni.
Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur la première.
Extrait du film Les Choristes, la version de Jean Dréville ici. Alors, dès l'indépendance de la Belgique, on le disait tout à l'heure, Thierry Demey, en 1830, l'école est au centre de cette lutte idéologique entre les courants chrétiens laïcs. Il faudra attendre 10 ans pour qu'une alchimie soit trouvée en faveur de l'enseignement primaire. Face à la tutelle tenace qu'exerce l'Église sur l'instruction au milieu primaire, notamment les libéraux qui sont favorables à l'indépendance du pouvoir civil vont concentrer leurs efforts, eux, au milieu du 19e siècle, sur l'enseignement moyen ou secondaire. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils apportent, au fond?
Alors, bon, là où ils ne peuvent pas réformer, en fait, la pomme de discorde qui les sépare, c'est essentiellement l'enseignement du cours de religion. Mmh. Le cours de religion est obligatoire et personne ne le conteste. À savoir, le cours de religion est considéré comme essentiel à l'éducation et dans tous les courants politiques, on est d'accord. Seulement, ce cours obligatoire, les libéraux pur jus qui créent leur premier parti en 1847 disent c'est une manière de maintenir une tutelle de l'Église sur l'enseignement officiel, puisque l'Église non seulement enseigne le cours de religion, mais a pratiquement un contrôle sur tout l'enseignement qui se déroule dans l'école publique. Et non seulement ça, mais en plus, les communes qui sont censées avoir une école communale sur leur territoire peuvent très bien, ce qu'elles font d'ailleurs abondamment, adopter une école libre. C'est-à-dire prendre une école libre sous son aile et considérer que cette école libre suffit pour l'enseignement communal de la... Et c'est ce qui se passe dans la réalité. Donc l'école publique neutre, laïque, gratuite, n'évolue pas. Et donc on va faire dans un premier temps... On va le faire par le biais de l'école moyenne, et mieux, à un moment donné, alors que le pouvoir catholique est au pouvoir. La Ligue de l'enseignement, qui est créée par des libéraux de pratiquement tous les milieux, dont le milieu enseignant, mais il n'y est pas majoritaire, la Ligue de l'enseignement décide de fonder une école modèle. Et l'école modèle va vraiment être... comme son nom l'indique, la pionnière de la construction scolaire publique à Bruxelles et de manière générale dans le pays. L'idée de l'école modèle, c'est non seulement un programme complètement rebâti, où les connaissances, mais aussi l'expérimentation, l'observation dans la nature, par le biais des musées, est quelque chose de très important, où la formation et le statut des enseignants est pris en compte, mais également, et c'est là qu'on en vient pour le patrimoine scolaire, la construction d'une école doit répondre désormais à des critères très stricts.
Alors, quels sont ces critères ?
Alors, l'école publique va s'organiser, en fait, et c'est ça qui est assez remarquable, c'est que la plupart du temps, quand on se promène dans les rues du centre de Bruxelles, on voit difficilement où se trouvent les écoles. Et pour cause, puisqu'en réalité, elles ne se distinguent pas dans les rues des autres bâtiments proches, sinon que la façade est un petit peu plus luxueuse, elle est en pierre, elle est un petit peu plus large, mais à peine, on dirait une maison patricienne. Mmh. On rentre dans ce bâtiment, et ce qu'on constate, c'est qu'on rentre par un couloir, et on accède ensuite à un immense préau, autour duquel sont installées les classes. Et ça, c'est le modèle qui va être appliqué absolument partout. L'idée du préau, c'est finalement la cour de récré pour pays à temps pluvieux. Mmh. À Bruxelles, en Belgique, il pleut tout le temps. Eh bien, on va faire un préau. Il faut savoir que ce préau n'est possible que dans la mesure où on a inventé des matériaux modernes, à savoir l'acier, qui permet des longues portées, et le verre. Le verre qui existait auparavant, mais pour faire du verre industriel, des verres de grand format, eh bien, il va falloir une révolution à la même époque. C'est l'époque de la construction de la Tour Eiffel pour avoir un point de repère. Et donc, ce préau va être rendu possible. On construit ce préau avec des classes autour. Le préau sert à la fois de cours de récré, mais il sert pour les cours de gym, pour les séances, s'il y a des séances de cinéma, il sert absolument à tout. Et il sert aussi à la surveillance. Parce qu'en fait, le préau d'une école, il fonctionne un peu comme le préau d'une prison. C'est-à-dire que les classes étant bien réparties tout autour, le directeur a son bureau dans un coin et peut voir tout ce qui se passe au niveau des classes. Les classes qui sont éclairées à la fois par le préau et par les cours extérieurs. On attache beaucoup d'importance à l'hygiène. Il faut savoir que les locaux, à l'époque de la petite école, les locaux scolaires étaient misérables. Aujourd'hui, grâce à l'école modèle, eh bien, ces locaux bénéficient des inventions les plus remarquables en matière de chauffage, en matière d'éclairage. On soigne le design des bancs scolaires pour être sûr que les enfants n'attrapent pas des scolioses. On leur prévoit une écriture cursive qui déliante, qui permet d'éviter qu'ils n'écrivent n'importe comment. On insiste en fait sur des tas de paramètres auxquels on est toujours attentif aujourd'hui.
Et puis pour les libéraux, l'école c'est aussi l'endroit où on va émanciper les populations les plus défavorisées. C'est l'endroit de l'émancipation.
C'est effectivement, l'idée, c'est d'émanciper, non seulement de lui permettre d'acquérir de l'autonomie, mais par ailleurs de le défendre contre l'endoctrinement que représente l'enseignement de l'Église, qui estime que le dogme est inattaquable, et les libéraux veulent sortir, évidemment, la population de cette influence qu'ils jugent délétère. Il est évident que c'est un combat politique et idéologique qu'on sert par la même occasion.
Et qui va durer des années. Donc au lendemain des élections législatives du 11 juin 1878, le gouvernement libéral de Walter Ferrand-Orban crée un nouveau portefeuille ministériel, c'est celui de l'instruction publique qu'il confie à un banquier anticlérical, membre de la Ligue de l'enseignement, c'est Pierre Van Hunebeek, qui va beaucoup œuvrer pour l'avènement pratique de la neutralité de l'école publique. Puis l'heure de la revanche sonne en 1884. La politique anticléricale menée par les libéraux ne fait plus recette, c'est une majorité catholique absolue qui s'installe au Parlement pour 30 ans. Ils reviennent sur un certain nombre de choses. Est-ce que l'architecture, à ce moment-là, va le ressentir ?
Alors, c'est un mouvement de balancier permanent. Ouais. Je veux dire, on oscille entre le cours de religion obligatoire. Non, il n'est plus obligatoire. On peut introduire les nouvelles religions. On introduit le cours de morale laïque. Tout ça, évidemment, va faire l'objet de marchandage. Mm-hmm. Et puis, à partir du moment où les catholiques reviennent au pouvoir, petit à petit, ils reviennent sur les acquis obtenus par les libéraux. Et c'est un retour de balancier jusqu'au pacte scolaire, ouais, c'est-à-dire jusqu'à 1958, date à laquelle on considère les deux réseaux sur un pied d'égalité, parfaitement indépendants les uns des autres, avec des conséquences positives qui sont évidemment l'apaisement des querelles idéologiques, mais par ailleurs des budgets scolaires qui ne font qu'exploser parce que entre-temps l'école est devenue obligatoire. Rappelez-vous qu'en fait l'école n'est obligatoire en Belgique qu'en 1914. Ouais. C'est le dernier pays d'Europe occidentale à imposer l'enseignement primaire obligatoire. On s'étonne du taux d'analphabétisme qui règne dans la population à l'époque, mais ça n'a rien d'étonnant. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, dans une entreprise, mais aussi dans une famille, le travail des enfants est une nécessité économique et que donc les résistances ont été extrêmement fortes avant de parvenir à l'obtenir. Et donc, en 1914, jusqu'à 12 ans, l'école est enfin obligatoire. Et puis, on va avoir le phénomène de la deuxième partie du XXe siècle, c'est-à-dire la démocratisation des études. Et donc, le fait que les candidats aux études secondaires et supérieures se multiplient, et donc les budgets vont effectivement exploser. Maintenant, sur le plan de la construction scolaire, ce qui est intéressant, c'est que l'école modèle va faire école, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va... La multiplication des cas, et j'en parle d'un certain nombre dans mon livre, rue Haute, rue Véronèse, partout, aussi bien à Bruxelles-Ville que dans les communes limitrophes, on va construire des écoles sur le modèle de l'école modèle. Pendant ce temps-là, l'école catholique, elle, revisite les styles du passé. Les styles du passé, c'est-à-dire du néo-gothique, plus rarement du néo-roman. L'idée, finalement, c'est que l'un comme l'autre joue sur les symboles. L'école libre, elle insiste sur la tradition. Elle revisite le style du passé parce qu'elle croit à une espèce de Moyen-Âge chrétien mystifié.
On appelle ça le style troubadour, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On a appelé ça le style troubadour parce que c'était un peu, évidemment, pour se moquer, puisque c'était du faux vieux. Vous avez la ville emblématique du style troubadour en Belgique, c'est Bruges. Bruges est une reconstitution 19e siècle des styles anciens. C'est pour ça qu'elle plaît tellement, d'ailleurs. Et donc du néo-gothique à tous les coins de rue.
Et on va même réaffecter des domaines privés. Les catholiques vont réaffecter des domaines privés.
Alors oui.